Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Maxime Tafanel est un ancien nageur dont la spécialité était le 100 mètres papillon. Malgré de bonnes performances et l'intégration d'un sport études de la 6e à la terminale, il a quitté les bassins pour se diriger sur scène où il propose aujourd'hui une comédie nommée 100 mètres papillon qui joue partout en France et sur toutes les scènes. La découverte de la natation, son passage des bassins à la scène et sa comédie 100 mètres papillon, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Maxime Tafanel, je te souhaite la bienvenue sur le podcast.
Je suis content d'être là, merci beaucoup.
Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Je m'appelle Maxime Tafanel, je suis comédien.
Comédien, mais avant...
Et avant nageur, je nageais à Montpellier, en section sportive pendant très longtemps, toute ma scolarité.
Et justement cette enfance, le monde de la natation, comment s'est passé? Est-ce que tu pourrais en parler?
Bien sûr. J'ai commencé grâce à mon père, il m'a amené au bord des bassins, il me faisait glisser sur le dos en me tenant par la nuque. Du coup j'ai beaucoup apprécié cette sensation de glisse et c'est parti de là en fait mon amour de l'eau et mon amour pour l'eau. Du coup j'ai commencé à faire des 25 mètres avec des petits garçons de mon âge et puis j'ai commencé à m'amuser sous l'eau, à récupérer des petits cerceaux, à faire des piquets, toucher le sol, remonter, voilà, ça a commencé par des jeux, puis après on a fait un 25 mètres, puis 50 mètres, puis 100 mètres, et puis je me suis réveillé, et je faisais 8 fois par semaine d'entraînement au lycée, au collège, à Montpellier, et ma spécialité c'était le papillon, sprinter, 50 et 100 mètres, un peu de crawl aussi, mais le papillon c'était la nage que je préférais le plus parce que c'était une nage aérienne, une nage agréable quand on savait la nager. Et une nage qui peut aussi être très, très éprouvante, très fatigante. Mais le papillon, j'aimais ça parce que j'avais une souplesse des épaules, j'avais une facilité à onduler. Et j'adorais cette nage.
Est-ce qu'à cet âge-là, tu étais déjà en sport-études?
Alors je suis rentré en section sportive en 6e à Montpellier. De la 6e à la terminale, je suis resté dans ce cadre-là de la section sportive où je m'entraînais d'abord au collège, je m'entraînais les soirs et puis après on a glissé vers des entraînements le matin et le soir et au lycée on nageait peut-être 6 à 8 fois par semaine après les cours et avant les cours.
Est-ce que tu rêvais d'être champion à cet âge-là?
Bien sûr, moi j'ai rêvé d'être un champion comme Yann Thorpe, comme Popov, comme VDH, comme tous ces grands nageurs que je côtoyais quand j'étais nageur, jeune nageur. Je les regardais à la télé, j'avais envie de faire comme eux. Michael Phelps, il est arrivé plus tard. Il est arrivé en 2000. Pour moi, il est arrivé en 2003 quand j'ai commencé à le connaître. Vraiment, c'était en 2003 à Barcelone. Et après, j'ai été fasciné par cet homme-là. Mais avant ça, c'était Yann Thorpe, c'était cet homme otari avec sa combinaison noire, ses pieds qui mesurent de 54. Yann Popov aussi, le nageur qui nage d'une manière très délicate, très fluide, sans force et qui arrive à nager extrêmement vite. Ça me fascinait. Parce que je tiens à parler d'un truc, c'est effectivement... je viens d'une famille d'artistes, du coup, moi, j'appréciais beaucoup mêler le geste du nageur avec de la danse. Voilà, je me disais que la danse, c'était de la natation et qu'il fallait absolument trouver la glisse parfaite pour pouvoir se mouvoir dans cet élément qu'est l'eau, sans force. Voilà, ça, c'était mon but. C'est pour ça que le papillon aussi, quand on le nage d'une manière très délicate, très déliée, ça peut être magnifique, tout en souplesse.
Ça, c'est une nage qui est difficile, le papillon,
ouais.
Où c'est très technique aussi.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que toi, justement, dans la natation, ce que tu aimais bien, c'était travailler tout ce qui est technique plutôt que la vitesse? Pourtant, tu as quand même un record en 59,09 sur 100 mètres papillon, donc les experts...
Oui, faire moins de la minute, c'est vrai que c'est bien. Après, effectivement, il y a plein de barrières à descendre après. Enfin, il y a... Je pense que nager à bon niveau, moins de la minute, c'est bien. Puis après, effectivement, il y a 58, 57, passer sous les 55, sous les 53, sous les 52. Après, on grappille des dixièmes de seconde, mais on touche au très très haut niveau. Effectivement, là, le papillon, c'est une nage qui est très éprouvante physiquement, mais on peut y trouver un rythme tranquille. Il y a un rythme de croisière. J'aimais beaucoup aller à l'entraînement, justement, chercher plus la glisse que la vitesse. D'ailleurs, c'est Popov travaillait comme ça. Notre entraîneur nous disait que Popov travaillait d'abord sur la lenteur pour après aller vite. Il travaillait les gestes ralentis, il allait très lentement dans l'eau et pour après avoir je sais pas, une réactivité, une tonicité qui lui permettait d'aller extrêmement vite. Mais moi, je prenais beaucoup de plaisir à nager lentement, ouais.
Très dans la technique,
Ouais, dans le geste et dans le sentir, quoi. La sensation de toucher l'eau et de se dire, c'est pas maintenant encore que je vais pousser, c'est encore, là, je suis encore en train de glisser, attends, 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 et c'est maintenant. On a trouvé ce moment parfait, quoi, de la bascule. Voilà.
vraiment le 100 mètres papillon, c'était ta nage de enfin ta distance et ta nage de prédilection.
Oui, parce que je pouvais pas faire plus. Vraiment, 200 mètres papillon, c'était autre chose encore. Et là, c'est très difficile.
Ouais, et bon, c'est pas anodin parce que bah justement tu joues une pièce de théâtre en ce moment, donc enfin une comédie plutôt,
Oui, une pièce de théâtre, c'est un texte que j'ai écrit, oui, bien sûr.
qui s'appelle 100 mètres papillon. Bon, avant d'en parler, est-ce que tu peux justement parler de cette transition entre la natation et la scène?
Bien sûr. Du coup, comme je te le disais, j'ai des parents artistes. Du coup, tout petit, je faisais des spectacles pour mes parents avec mon frère, et on faisait des textes de théâtre, des poésies pour la famille. Ça a commencé comme ça. Et puis après, la natation est arrivée. Et j'ai adoré ce sport, j'adore encore ce sport, je suis passionné par ce sport. Mais quand la natation est devenue laborieuse, quand la performance a pris le dessus sur le plaisir de nager, quand le chronomètre a pris la place et que je ne pensais qu'à ça, eh ben, le théâtre m'a permis de trouver d'autres chemins et de me dire, bon voilà, la natation, je sens que c'est plus pour moi. Ça va pas être, je vais pas être un grand champion malheureusement. Il faut que je pense à autre chose. Faut que je pense à mes études. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis il y avait le théâtre qui était là. Depuis tout petit, il y avait le théâtre. J'étais un peu le rigolo de la classe. Je faisais des sketchs pour mes copains, mes copines. Et quand j'ai senti le moment, voilà, à 17 ans, j'ai commencé à faire des ateliers de théâtre avec des professeurs au lycée. Puis après, j'ai rencontré deux autres personnes qui ont vraiment marqué ma vie théâtralement, Yves et Moni. Et puis, j'ai passé des concours et je suis devenu comédien. D'abord en formation dans une école de théâtre à Montpellier.
Ah, c'était à quel âge, juste
Ah, j'avais 18 ans.
18 ans.
Ouais, c'est directement après le bac.
Okay.
Et puis après ces 3 années d'école à Montpellier, je suis parti à la Comédie-Française. Donc là, pendant 1 an, en tant qu'élève comédien. Et après, j'ai travaillé comme j'ai pu, comme j'ai voulu, avec des metteurs en scène et avec mon texte aussi que j'ai écrit en 2017.
Et pourtant, c'est pas évident parce qu'on sait que la natation, c'est un sport qui prend beaucoup de temps. Tu disais que tu avais un entraînement matin et soir.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, pour exemple, tu disais que tu aimais bien écrire des sketchs. Ça devait pas être facile de trouver du temps pour faire ça, pour le travailler,
Effectivement, alors après le spectacle 100 mètres papillon, il a été écrit en 2017 et moi j'ai arrêté la natation vraiment au niveau en 2009-2010.
D'accord, donc il y a eu.
En fait, il y a eu le temps en fait de digérer cette rupture avec l'eau parce que c'est pas facile d'arrêter une pratique qu'on a éprouvée jusqu'au bout de la douleur. Du coup, quand on arrête, il faut trouver autre chose à faire. Faut marcher, faut. Parce que j'ai vu que tu avais interviewé Axel Raymond. Ce mec-là, il nage plus qu'il ne marche. Et beaucoup de nageurs nagent plus qu'ils ne marchent. Du coup, quand on arrête la natation, on se retrouve dans un univers qui ne nous est pas familier. La terre ferme. Il faut réapprendre à marcher, à se déplacer comme des humains normaux, alors qu'on est des poissons. Du coup, la transition a été longue. Mais le théâtre, encore une fois, m'a permis de franchir ce cap-là et de, grâce au texte, grâce à des metteurs en scène que j'ai rencontrés, j'ai pu passer à autre chose et j'ai pu retourner à la natation plus tard d'une manière plus passionnelle, quoi, sans prise de tête, sans regarder le chronomètre.
Et entre la comédie et la natation, enfin, je sais pas si tu vois aussi, c'est peut-être ce parallèle, parce que l'art corporel, justement, c'est tu bouges dans l'eau, là, tu bouges sur scène.
Ouais.
Est-ce que tu fais des liens entre les deux?
Bien sûr, quand je suis sur un plateau, j'ai l'impression d'être dans l'eau. Quand je suis sur un plot, avant de faire le départ, je suis sur un plateau de théâtre. Enfin, tout d'un coup, il y a le côté d'être très très haut sur un plot, c'est comme être très éclairé sur un plateau. Tout d'un coup, on se sent très grand, on se sent très observé. Et puis après la course, effectivement, elle est faite de rebondissements comme dans une pièce de théâtre. Mais j'ai toujours senti que j'étais dans l'eau et sur scène d'une manière très aquatique. Ça ne m'a jamais quitté. Le théâtre est un grand bassin et j'ai l'impression de nager dedans.
Ouais. Et justement, tes premières scènes?
Et mes premières scènes, au départ, c'était pas facile parce que j'avais le corps encore du nageur, c'est-à-dire les épaules, voilà, les épaules assez hautes. Je marchais comme un canard. On était tous un peu désarticulés comme les pantins. Du coup, pour trouver une physicalité sur un plateau, ça a mis du temps. J'avais l'impression d'être une armoire à glace. Je bougeais pas. J'ai pris le temps de détendre mes épaules, de trouver un relâchement pour être vif sur le plateau. Donc les premières scènes étaient un peu compliquées, mais après j'ai trouvé mon corps dans la scène. Et je pensais au départ renier tout mon passé de nageur et effacer tout ça et créer un nouveau corps, une nouvelle vie théâtrale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce travail que j'ai fait dans l'eau, eh ben, je ne pouvais pas le quitter comme ça. Et finalement, il m'a aidé ce travail-là à me porter sur scène, à être souple. Voilà. Et puis j'ai gardé aussi la rigueur d'une répétition, comme on est en entraînement, on écoute son coach, comme on peut écouter son metteur en scène. Je fais confiance. J'aime bien faire confiance aux gens qui me regardent parce que je peux pas avoir la, j'ai pas la capacité moi de me diriger moi-même. Il faut absolument un regard extérieur. Le coach est important et du coup le metteur en scène est très important.
Et pour revenir sur donc ta comédie 100 mètres papillon,
Ouais.
d'où est venue l'idée d'écrire ta propre comédie?
Ben, j'ai commencé à faire des petits sketchs, comme tu dis, des petits sketchs, des petites improvisations autour de la compétition. La chambre d'appel, comment on nage un 100 mètres papillon sur là, maintenant, qu'avec les gestes et sans l'eau, avec les bruits, les bruitages de la bouche et les gestes. J'ai commencé à présenter ça à des amis, puis après à des intervenants théâtraux, et je me suis rendu compte que ça marchait bien, quoi. Les gens réagissaient bien. Je me suis dit, tiens, je raconterai bien mon histoire alors bientôt. C'était pas encore le moment pour moi parce que j'avais encore cette comment on appelle ça, cette cicatrice qui était encore un peu ouverte. J'en voulais encore à l'eau, quoi. J'en voulais encore un peu à mon entraîneur, je m'en voulais à moi-même. J'assumais pas encore que mes rêves d'être champion s'étaient effacés. Du coup, j'ai mis le temps à écrire parce que j'étais pas encore prêt. Puis est venu le moment où j'ai osé écrire, ça a pris du temps. Et puis après, j'y ai mis tout l'univers aquatique que je connaissais et théâtralement ça a fonctionné merveilleusement bien grâce à Anneli Poulicani qui est la metteuse en scène du projet.
Justement, même si t'es seul sur scène, t'es pas seul.
Exactement. Je suis pas seul.
Comment s'est fait cette rencontre? Qui t'accompagne
Eh ben écoute,
dans
cette
ce projet?
rencontre-là, c'est Nelly qui met en scène. Je l'ai rencontrée à la Comédie Française quand on était élève comédien. On s'est très bien entendu. Et quand j'ai voulu écrire ce spectacle, je suis allé la voir parce que j'ai vu qu'elle faisait des seules en scène et qu'elle avait l'expérience d'être seule sur le plateau. Et je sais que j'avais besoin d'elle parce qu'elle était, elle est très précise, très rigoureuse dans ce qu'elle fait. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un regard comme ça, incisif, pour pouvoir me diriger et pour pouvoir m'amener. À me dépasser dans mon écriture et aussi physiquement sur le plateau. Et elle a été là, J'ai d'abord écrit le texte, des parties de texte. J'ai proposé des textes à Nelly sur le plateau. Nelly, elle me disait « Ok, faisons des improvisations autour de cette thématique qu'est le coach, le commentateur sportif. » On faisait ça, puis après le soir, je reprenais ce qu'on avait fait, je réécrivais et je revenais le lendemain avec un texte peut-être plus développé. Le travail d'écriture, c'est moi qui le faisais, mais elle adaptait mon texte. Elle le modulait pour en créer un spectacle à la fin. Voilà. Et elle, pour la petite histoire, elle déteste nager. Et je ne pensais pas qu'elle pouvait m'accompagner à ce point-là, sur ce projet, malgré le fait qu'elle était incapable de nager et qu'elle détestait ça.
Et dans ta pièce de théâtre, justement, est-ce que c'est des faits réels? Est-ce que il y a de l'improvisation, pas de l'improvisation, mais du fictionnel?
Oui, bien sûr. Le personnage principal de ce spectacle s'appelle Larry. Et Larry me permet de me cacher moi-même. C'est-à-dire, je ne dis pas c'est Maxime qui est sur le plateau, c'est Larry. Et Larry, il a sa propre vie. Je peux y intégrer des passages de ma vie, des sensations que j'ai vécues, des courses que j'ai vécues, des adversaires que j'ai rencontrés, des coachs que j'ai côtoyés. Mais je veux laisser aussi une part un peu d'imaginaire, de fiction. Voilà, le mot fiction. De fiction pour ce personnage. Du coup, ce personnage-là, il fait des courses extraordinaires. Il rencontre des coachs qui sont... Un coach qui est incroyable. Ça me permet de me cacher de ma réalité et de me proposer une fiction qui est plus drôle, plus intéressante. Sinon, ma vie, elle n'est pas si intéressante que ça, finalement. J'ai nagé, j'ai arrêté, j'ai repris la natation après. Je me suis réconcilié avec l'eau grâce à un entraîneur qui m'a réappris à nager. Ça, théâtralement, c'est compliqué à raconter. Il fallait qu'on soit... Comment dire ? Direct. Qu'on fasse une heure de spectacle avec de la course, des sensations et un renoncement, une remise en question sur le chronomètre, sur ce qu'on fait. La remise en question du nageur de haut niveau, sur ses performances et sur ses sensations.
Donc tu nous as dit que la rédaction, ça avait commencé en 2017.
C'est ça, ouais.
Et quand est-ce que tu as commencé à le jouer ?
J'ai joué en 2018.
Donc un an pour écrire le...
Ouais, environ, ouais. Parce que j'avais d'autres projets aussi à côté, mais un an réparti en, voilà, genre une semaine par-ci, une semaine par-là, sur un an, quoi. Et puis je l'ai écrit en 2018, et ça fait depuis 2018 qu'on joue ce spectacle.
Ça t'est en tournée dans toute la France ?
Ouais, toute la France.
Quelles sont les villes où t'es passé, les plus beaux moments que t'as vécu ?
Les plus beaux moments que j'ai vécu ? Oui, j'en ai vécu des très beaux. Déjà, jouer devant ses parents un spectacle comme ça, aussi intime, c'est très touchant. Moi, ça m'a beaucoup marqué la première fois. Et puis après, j'ai joué dans des endroits incroyables. J'ai joué devant les nageurs du Cercle des nageurs de Marseille. J'ai joué devant Aurélie Muller à Nice. J'ai joué devant Manodou à Marseille. J'ai joué devant Hugues Dubosc à Paris. J'ai joué devant Simon Dufour à Avignon. J'ai joué devant plein de champions. Et ça, j'adore. Devant mes entraîneurs, devant mes potes nageurs. Des dates marquantes, j'en ai eu plein. J'ai joué dans une piscine pour faire une performance autour du spectacle. J'ai joué dans un volcan. C'est le festival du volcan de Montpellou, un endroit magnifique. La scène était sur l'eau, dans un espace où il y avait... On avait l'impression d'être sur la Lune, dans un volcan. Et ça résonnait, c'était extraordinaire. Ça, c'était incroyable, cette date. Après, j'ai connu plein de choses, hein, plein de scènes différentes. J'ai joué dans une prison, j'ai joué dans des salles de 500 places et dans des salles de 20 places. Parce que c'est ça, le spectacle, en fait, il se veut aussi léger. Il n'y a pas de décor, il n'y a que le geste, la parole, les bruits et une chaise. Pouvoir se reposer de temps en temps, mais tout est dans le jeu. Les effets lumière et sonore sont très importants, mais c'est un spectacle léger justement pour le jouer partout, parce que je crois en ça, moi, en cette décentralisation de l'art théâtral. Ouais.
Et jusque quand est-ce que tu comptes le jouer? Quelles sont tes prochaines dates?
Alors, ma prochaine date, là, donc je joue à Font-Romeu ce soir, le 1er avril. Je vais jouer à Annecy le 14 avril. Après, je vais jouer à Montpellier en novembre. J'ai d'autres dates encore. Mais là, on arrive vraiment sur la fin de cette vie de spectacle. Après, il y a les JO de Paris 2024 qui peuvent aussi relancer un peu le spectacle, dans le sens où peut-être que ça peut intéresser les élus de montrer un spectacle qui mêle à la fois la culture théâtrale et le sport.
Justement, parce que c'est quand même assez rare, c'est un point que je voulais aborder. Il y a quand même peu de pièces de théâtre, de spectacles d'humour qui parlent de sport.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai que c'est assez particulier. Je sais pas si ça attire les gens, si les personnes qui viennent te voir, justement, c'est des personnes qui sont intéressées par le sport ou si qui viennent découvrir la vie d'un personnage.
Ouais, mais en fait, il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent que ça parle de natation, et ils sont nageurs ou anciens nageurs et ils disent tiens, on va aller voir ça. D'autres, ils ne nagent pas du tout et ils vont voir ce spectacle en se disant bon, qu'est-ce qu'on va voir? Et ce qui a été malin dans ce spectacle, dans la création de ce spectacle, grâce à Anneli, c'est qu'on a abordé ce thème de la natation comme un thème, pas un thème élitiste. C'est pas réservé qu'aux nageurs, c'est tout d'un coup, on peut nager en y mettant du rythme, en y mettant de la musique. Et du coup, tout d'un coup, quand tu transformes la culbute, par exemple, en partition de musique, la personne qui ne nage pas se dit, ah ouais, en fait, on peut mêler une pratique sportive avec de la musique ou avec de la danse. Et cette histoire d'aller au bout de soi-même, oui, voilà, d'aller au bout de soi-même, de se confronter à la réalité de la performance et de sa dureté. Ça arrivait à plein de gens. Mais pas que dans la natation. Dans la vie en général. En piano, en tricot, tout ce que tu veux. On s'est tous confrontés à ce moment où on se sent extrêmement bien dans ce qu'on fait, puis tout d'un coup, ça disparaît. Et on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'accroche? Et il faut surtout pas avoir peur du vide après. Moi, j'avais très peur du vide quand j'ai arrêté la natation. Je me suis dit que j'avais perdu du temps à nager. Et pas du tout. En fait, ça m'a servi, ça m'a porté pour écrire, pour aller sur le plateau. C'est jamais perdu ce qu'on fait.
Justement, cette reconversion, est-ce que c'est un sujet que tu peux aborder là d'ici, t'es à Font-Romeu avec les nageurs qui s'entraînent ici?
Ah ouais, j'adorerais. Mais là, les nageurs, j'ai nagé avec eux hier et aujourd'hui, là. Ces nageurs-là, ils sont jeunes, ils sont encore insouciants, ils pratiquent ce sport d'une manière magnifique, dans la passion. J'ai pas envie de leur dire que la réalité du haut niveau, c'est là, il y en a 10, peut-être qu'il y en aura un ou deux. Mais ça, peut-être qu'ils sont au courant de ça, mais faut pas leur dire. Il faut surtout leur dire si vous n'arrivez pas à vos objectifs, ce n'est pas grave. C'est pas un échec. Vous avez déjà fait des choses incroyables avant. Ce que vous faites dans l'eau, personne ne peut le vivre comme vous. Et ce que vous avez fait dans l'eau, ce que vous ressentez, à raconter aux gens qui ne nagent pas, c'est extraordinaire. Et ça vous porte. Voilà, comme l'eau nous porte.
Donc tu as parlé justement, tu as repris, tu as fait une séance avec eux.
Ouais, j'ai nagé un peu.
Tu as repris la natation, est-ce que c'est un sport, enfin tu nous as dit que c'était un sport que tu avais repris peu à peu,
Ouais, j'ai repris peu à peu.
peu à peu goût, ça va être, enfin, est-ce que tu t'entraînes régulièrement? Est-ce que tu es
Ouais,
justement...
je me suis rentraîné. Là, en fait, j'ai recommencé en septembre dans un club de Paris, le CNP, dans un club de master. Un groupe master, pardon. Donc plus âgé. Mais oui, j'ai repris plaisir à me remettre dans l'eau, à rencontrer des nouvelles personnes et à découvrir voilà que on n'y a pas que des gens de il n'y a pas que des gens jeunes quand on est en section sportive comme ça qui nagent. Tout d'un coup, tu rencontres des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont du vécu et qui nagent parce que ça leur fait du bien, parce que ce sont des anciens champions, parce que et tu apprends plein de choses. Et moi, j'adore, enfin voilà, j'ai mis du temps à me remettre dans l'eau, mais maintenant je prends beaucoup beaucoup de plaisir à nager et à rechercher encore le geste, la glisse.
Et puis pourtant, tu disais, ta comédie dure une heure.
Ouais.
C'est quand même assez physique.
Ouais, elle est très physique, ouais.
J'imagine que tu vas faire, est-ce que tu fais d'autres activités à côté pour essayer de garder la forme?
Ah oui, bien sûr, je suis obligé. Donc je fais un peu de gainage pour maintenir un peu le corps en place. Je fais de la course à pied et la natation, voilà, pour garder aussi ce contact avec le spectacle, parce que je nage sur le plateau et j'ai besoin quand même de me souvenir ce que ça fait que de nager. Mais le spectacle est extrêmement physique, il y a un moment de danse qui m'épuise dans ce spectacle. Mais justement, c'est fait exprès aussi. C'est pour montrer l'état d'épuisement total d'une pratique. Jusqu'où on peut aller, jusqu'à, tu vois, la limite du bout, du bout, du bout, du bout. Je pense que je ne l'ai jamais frôlé, cette limite. J'ai toujours été un peu derrière, enfin un peu avant de vomir, par exemple, ou avant de pleurer, d'abandonner. Parce que j'avais peur de me confronter à cette limite-là. Mais sur le plateau, je la vis, là.
Bon, dernier point, car je sais que tu as des répétitions prévues avant le spectacle de ce soir.
Ouais.
Tu as été nominé à la 33e nuit des Molières dans la catégorie révélation masculine de l'année. Ça a été annoncé hier.
Ouais,
justement, est-ce que tu peux expliquer donc ce que c'est cette cérémonie?
Ouais. Alors vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Les Molières, pour moi, c'était une cérémonie, comment dire? C'était la réunion de tous les acteurs français, comédiens français de théâtre, qui se retrouvent et qui se distribuent des prix entre eux. Parce que t'es meilleur, parce que t'es machin. Et je me suis dit, mais jamais de ma vie, j'irai là-bas parce que j'ai peut-être pas le niveau et peut-être pas l'ambition d'avoir un Molière. Et là, tout d'un coup, ce spectacle, Sans mettre papillon, il a beaucoup tourné. J'ai joué à Paris. Et on est rentré dans une éligibilité. Éligibilité, pardon, pour intégrer les Molières, c'est-à-dire qu'il fallait jouer genre 40 dates dans l'année pour le faire. Du coup, le spectacle il a été inscrit aux Molières, et puis après, on est rentré dans la catégorie seul en scène. Et du coup, les gens ont voté pour nous, ou pas. Et hier, avant-hier, j'ai appris que le spectacle n'avait pas été retenu comme les 5 seuls en scène finalistes, mais que moi, j'avais été retenu en tant que révélation masculine sur ce spectacle. Et on est 4 comédiens à prétendre à ce Molière en mai. Du coup, je t'avoue, c'est vraiment à la fois, je suis très touché parce que c'est une belle reconnaissance pour mon travail. À la fois, je trouve ça extraordinaire de me dire que je vais peut-être avoir un Molière. Et je me dis que non, parce que c'est pas ça que je cherche. On me tend une médaille, j'ai envie de la prendre, mais après je me dis non, ça me ferait plaisir, mais faut pas oublier que je fais du théâtre pas pour les médailles, pas pour les prix, je fais du spectacle pour rencontrer les gens, pour parler au public, pour m'exprimer, pour me faire du bien, ou pour pleurer, pour faire des choses que je ne fais pas dans la vie.
Mais au début, tu nous as dit que tu voulais être champion. Est-ce que ce ne serait pas la manière d'être champion, à ta manière
Ben, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance, mais...
C'est pas la finalité.
Mais en fait, non, en fait, avoir mis les pieds dans le théâtre, c'est déjà quelque chose de fort. Et pour moi, c'est d'être un champion, c'est-à-dire aller dans une pratique qui n'est pas trop valorisante financièrement au début, même maintenant encore. On est intermittent du spectacle, on a un statut très particulier, on n'a pas de CDI, on vit au jour le jour et on vit en fonction des travaux, des projets qu'on nous propose. Y a pas de, ça coule pas de source. Ça, c'est un risque. Mais prendre des risques, c'est aussi être champion. Donc là, j'ai été champion là-dessus, pour prendre des risques dans cette pratique, parce que je suis passionné par le théâtre. Après, si j'ai un Molière, c'est extraordinaire, mais ma mère sera contente pendant une semaine, après, ce sera fini.
Bon, en tout cas, la cérémonie aura lieu le 30 mai prochain.
Le 30 mai, ouais.
Et on suivra ça avec grand intérêt.
Ouais, je te remercie.
Bah, c'est moi qui te remercie, Maxime, de m'avoir consacré du temps pour cette interview.
C'était un plaisir.
Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait?
Oui, c'est revenir à Font-Romeu 16 ans plus tard. Voilà, c'est revenir à Font-Romeu. Il y a 16 ans, je venais ici pour faire les stages de natation avec mon club. J'avais 14 ans. 15 ans, et je reviens 16 ans plus tard pour jouer dans le gymnase dans lequel je faisais des, des foot avec mon équipe, avec mes coachs. C'est extraordinaire de revenir. En plus, il neige, donc c'est assez beau. Donc, voilà, c'est ça que je retiendrai vraiment, revenir à Font-Romeu 16 ans plus tard.
Et si des personnes veulent te contacter, te poser des questions, savoir si le spectacle viendra prochainement chez eux, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ?
Et ben, y a une page Facebook du spectacle, 100 mètres papillon. Et puis, on est tous sur les réseaux, sur Instagram. Je suis sur Instagram, sur Facebook. On peut facilement me contacter. Sur Internet, il y a l'adresse du collectif qui accueille le spectacle Papillon. Du coup,
le collectif que tu as créé,
le semble. Collectif Colette, effectivement, je l'ai créé avec 5 autres élèves comédiens, dont Nelly Policani, à la Comédie Française en 2012. Voilà.
Encore une belle réussite.
Ouais, c'était bien. Alors après, je suis très heureux d'avoir aussi créé mon. Enfin, j'ai créé mon collectif aussi pendant le confinement, le premier confinement, quand tout était arrêté et que j'avais très peur de ma situation d'acteur, parce que les spectacles étaient annulés et je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai créé ma compagnie théâtrale à Montpellier, parce que je veux continuer à écrire et à développer mon écriture et ma façon de voir, d'imaginer le texte, le théâtre. Je veux que cette vision-là soit portée par la compagnie que je crée. Voilà.
Bah, très bien, merci beaucoup, à bientôt.
Bah, je te remercie, à bientôt, ouais.
Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Maxime Tafanel. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, @sport.kylian-tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.